Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon, Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Baptiste Lénard. Nouvelle série donc consacrée à 4 milliardaires qui veulent changer le monde. Nous parlerons de George Soros et du savoir mis au service d'un idéal libéral. Mercredi, journée spéciale sur France Culture consacrée à la science et à ce que le Covid a fait à la science. Il sera question de Bill Gates, le philanthro-capitaliste au chevet de la science. Enfin, jeudi, nous nous pencherons sur la figure de Jimmy Lai, un patron de presse qui s'oppose à Pékin. Mais pour commencer, commençons donc par le premier d'entre eux, la plus grosse fortune du monde, Jeff Bezos, patron d'Amazon, du commerce en ligne à la conquête de l'espace, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Jeff Bezos est devenu l'homme qui valait 200 milliards de dollars.
I'm Jeff Bezos.
Je suis Jeff Bezos. Je suis le fondateur d'Amazon. Il y a 3 ans, je travaillais à New York pour un fonds d'investissement lorsque j'ai appris que le web progressait de 2300% par an. J'ai alors cherché une idée qui permettrait de tirer profit de cette croissance.
Au niveau du quality tip, si vous avez des anomalies qui partent du multi vers la BOD, n'hésitez pas à me les remonter afin que derrière je puisse investiguer dans les systèmes.
Donc je scanne mon article, il apparaît en haut en gras pour savoir si c'est la bonne couleur, les bonnes dimensions, etc. Et à côté, on a la taille du carton qui correspond. Donc du coup, j'ai pris les réflexes et le rythme à force. On connaît les gestes par cœur, on connaît les emplacements des cartons par cœur, donc ça va vite.
Alors que le monde fait face à la pandémie, Jeff Bezos est devenu la personne la plus riche du monde. Et pour cause, alors que l'économie mondiale s'effondrait, le commerce en ligne, lui, s'est encore accéléré, faisant d'Amazon un modèle économique plus attractif que jamais. En effet, pendant le confinement, alors que les supermarchés représentaient un risque sanitaire aux yeux des consommateurs, eh bien Amazon livrait des produits de première nécessité à la porte de ceux qui en ont besoin, écrivait Jeff Bezos dans sa lettre aux actionnaires. Toujours à la tête de la start-up qu'il avait créée en 1994, Jeff Bezos incarne la révolution du commerce en ligne grâce à une innovation logistique phénoménale qui permet d'assurer la livraison en 2 jours de tout ce qui peut se vendre. Amazon est donc un « everything store », pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage écrit par le journaliste américain du New York Times, Brad Stone. Mais si Amazon est la partie la plus visible de son activité, Jeff Bezos a des ambitions qui vont bien au-delà. Patron du Washington Post depuis 2013, il se place en défenseur de la liberté de la presse et son entreprise aérospatiale, Blue Origin, revêt une importance de premier plan à ses yeux sur le plan symbolique mais aussi financier puisqu'il continue d'accélérer la vente d'actions d'Amazon pour financer ses projets spatiaux. Alors quelles sont les ambitions de Jeff Bezos? Quels sont les secrets de sa réussite? Quelles conséquences aussi pour ses employés, plus généralement pour nos modèles de consommation? Quel projet idéologique porte-t-il? En porte-t-il d'ailleurs un? Quelle est sa vision de notre futur qu'il participe à construire à grands coups de milliards? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin François Lévesque. Bonjour.
Bonjour Florian.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, vous êtes professeur au Centre d'économie industrielle de Mines Paris Tech. PSL voulant dire Paris Sciences Lettres, et vous avez écrit notamment récemment Les habits neufs de la concurrence, c'était chez Odile Jacob. À nos côtés également ce matin, Benoît Berthelot, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes vous journaliste au magazine Capital et vous aviez signé, c'était l'année dernière aux éditions du Cherche Midi, Le Monde selon Amazon, qui était le résultat d'une très longue enquête, 3 ans je crois, depuis le siège de Seattle jusqu'aux entrepôts que vous avez pénétrés. Vous auriez bien voulu parler à Jeff Bezos, mais vous n'avez pas réussi. Hein. Vous courez pas assez vite et lui fait trop vite du vélo visiblement.
Exactement. Je l'ai croisé devant chez lui à Seattle, mais pour les journalistes qui veulent avoir une interview avec lui, les temps sont durs effectivement. Il en donne plus trop.
François Lévesque, la crise sanitaire, je le disais dans mon introduction, et le confinement ont eu un effet extrêmement bénéfique sur Amazon, qui en quelques semaines a vu sa valorisation considérablement grimper, permettant visiblement à Jeff Bezos de devenir la première fortune du monde. Je dis permettant. A priori, parce que il y a quelques doutes, non pas sur le fait que c'est le plus riche, mais sur sa fortune exacte. Et puis, il y a des débats qui consistent à dire qu'il n'est peut-être pas l'homme le plus riche de tous les temps. Enfin, qu'est-ce qu'on sait, François Lévesque, de la fortune aujourd'hui de Jeff Bezos? C'est le plus riche de tous les temps ou pas?
C'est aujourd'hui le plus riche. C'est historiquement pas forcément le plus riche. Tout le monde connaît John Rockefeller. Rockefeller.
C'est celui magna, qu'on dit.
Voilà, le voilà, magna voilà, voilà. Du pétrole qui a contribué au développement de l'utilisation du pétrole. Eh bien, Rockefeller, il est à la fois moins riche que Bezos parce que, si vous voulez, en termes de pouvoir d'achat, il est 5 à 6 fois moins riche. C'est-à-dire qu'il faut prendre la richesse de Jeff Bezos en 1930, enfin de Rockefeller en 1937, et puis il faut actualiser, voilà. En revanche, un autre indicateur qui est assez intéressant, c'est la fortune de Rockefeller rapportée au produit intérieur brut américain, et donc à la richesse des États-Unis. Et Rockefeller, c'était 1,7% de la richesse des États-Unis à son époque. Et de ce point de vue-là, Jeff Bezos n'est pas encore là. C'est-à-dire que Jeff Bezos est très nettement en dessous d'1% de la richesse produite chaque année aux États-Unis.
Donc il est encore le challenger. Benoît Berthelot.
Oui, c'est ça. C'est quand même le premier homme à franchir les 200 milliards de dollars de fortune. J'ai regardé ce matin, il est redescendu à 185. Mais enfin, c'est les variations du cours. Les variations du cours de bourse sont telles qu'il peut gagner ou perdre 10 milliards de dollars en un jour.
C'est oui, parce qu'il possède à peu près 11% des actions d'Amazon.
C'est ça, voilà. Il en avait 16% avant son divorce, puis 12%. Maintenant, il est revenu à 11%. Et ça représente donc la fortune qu'on a évoquée. Il est quand même loin devant, donc c'était Bernard Arnault ce matin, le premier Français, deuxième homme le plus riche à 115 milliards.
François Lévesque, je le disais, on a des économies qui aujourd'hui sont à terre, des emplois qui ont été détruits par dizaines de millions, et on a une société qui se porte merveilleusement bien, merci pour elle, et qui, mieux que ça, a vu pendant le confinement sa valorisation s'accroît considérablement. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire que, bravo Jeff Bezos, vous avez su miser sur le vrai secteur porteur de demain, où il faut dire, oulala, on a là le révélateur d'un dysfonctionnement clair de l'économie et du système économique et financier d'aujourd'hui.
Bah, le premier point est assuré, c'est-à-dire qu'il a eu une idée, et surtout il a exécuté, et il a construit une entreprise absolument incroyable. Unbelievable ce qu'il a fait. Personne n'aurait pu envisager qu'un magna de cette envergure puisse monter si vite une entreprise d'une telle puissance et aussi diversifiée. Sur la deuxième partie, évidemment, Amazon a un grand nombre d'inconvénients et entraîne des conséquences très dommageable, et notamment sur le plan de l'environnement, puisque il faut livrer chaque consommateur. Et donc, ils ne sont pas livrés encore par drone électronique tous ou par vélo électrique ou qui fonctionne normalement. Et donc, le deuxième chapitre, y voir un mal fonctionnement, non, peut-être y voir simplement ce que les économistes appellent cet effet boule de neige, les économies de réseau, c'est-à-dire vous avez un winner take all, c'est celui qui l'emporte, prend tout, rafle tout. Et pourquoi il rafle tout? Ben parce que plus vous avez de produits sur le site d'Amazon, plus c'est intéressant d'aller sur le site d'Amazon, plus le site d'Amazon a de personnes qui vont sur son site, et bien plus c'est intéressant si vous êtes un vendeur d'être sur le site d'Amazon. Et donc cet effet boule de neige qu'on a aussi connu pour d'autres GAFA, eh bien, Amazon en profite en plein. Et c'est surtout ça qui fait son succès. Donc, et en termes financiers, bien évidemment, il a été appuyé. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en termes financiers, finalement, il n'a jamais versé de dividendes. Et au lieu de rendre une partie de ses profits aux actionnaires, eh bien, il investit de façon quasiment continue.
Est-ce que ça veut dire, Benoît Berthelot, qu'il va falloir s'habituer et qu'il sera longtemps le premier, parce que pour les rivaux, c'est extrêmement compliqué de venir rivaliser?
Je pense qu'effectivement, il est là pour très longtemps. Il a toujours une vision à 10 ans, voire à 20 ans. C'est vrai pour l'espace dont on parlera, mais pour aussi son business actuel. Par exemple, je suis allé en Inde pour voir comment Amazon était en train de conquérir le continent indien. C'est une dure bataille. Il est contre Walmart qui investit là-bas aussi, etc. Mais ça, c'est pour lui le marché qui sera son marché numéro 1 peut-être dans 10 ans. Et les milliards qu'il perd là-bas aujourd'hui lui assureront sa croissance dans 10 ans quand le marché américain sera arrivé à maturité. Et effectivement, il met tout en place pour que les plateformes qu'il crée soient les plus durables possibles. C'est vraiment le créateur d'une économie de plateformes. Amazon, c'est de multiples plateformes utilisées par d'autres. Elle crée pas forcément des richesses pour Amazon dans l'immédiat. L'activité première d'Amazon, le commerce en ligne, c'est difficilement rentable. Mais l'infrastructure logistique, les entrepôts, même les camions, maintenant tout le système de livraison, qui est un système parallèle à la poste, il est utilisé par d'autres entreprises qui vendent sur Amazon. Et Jeff Bezos a à chaque fois cette logique-là. Le cloud, qui est l'activité numéro un en fait d'Amazon en termes de revenus, de bénéfices.
En termes de rentabilité,
voilà,
en tout cas.
Ces bénéfices, c'est le cloud, c'est-à-dire Amazon a mis en place des fermes de serveurs pour supporter les pics de connexion à son site. Et dès 2007, Jeff Bezos a décidé d'ouvrir ses serveurs à toutes les autres entreprises qui voudraient les utiliser. Et aujourd'hui, la SNCF, Renault, même Radio France, Netflix, Google, Apple, enfin, c'est le numéro un du cloud. Mmh. Toutes les autres entreprises utilisent Amazon pour ça. Et alors, ça leur rend très solide.
Là, en une minute, vous avez évoqué nombre de sujets que j'ai prévu d'évoquer. Mais il y a une chose que j'ai entendue, vous avez expliqué qu'aujourd'hui, on se concentrait beaucoup du côté d'Amazon sur l'Inde. Est-ce que la stratégie pour gagner ce marché indien est la même pour n'importe quel autre marché? C'est-à-dire qu'en gros, on a une stratégie qui est toujours la même et qui fonctionne visiblement. Ou est-ce qu'on adapte les choses?
Il y a quand même une adaptation, parce que l'Inde, c'est quand même un monde différent que les économies occidentales, avec des bonnes infrastructures, avec tout le monde qui a une carte de crédit, etc. Le problème en Inde, c'est que les gens n'ont pas de carte de crédit encore, pour beaucoup. Ils payent par mobile, ils sont passés directement au mobile. Certains veulent payer le livreur en cash. Donc, la livraison, c'est aussi très compliqué. Donc, il y a des tuk-tuk, il y a des scooters, etc. Mais les gens vont encore chercher leurs paquets dans des magasins, les mom and pop shop, comme on dit, l'épicerie du coin. Donc, il y a eu toute sorte d'adaptation, effectivement, à ce marché très compliqué. Mais ça reste pas très différent. L'organisation des entrepôts, évidemment, la technologie est la même. Amazon a beaucoup d'ingénieurs, d'ailleurs, en Inde.
Quand vous dites la technologie, c'est au niveau des entrepôts, quoi.
Voilà, et puis même l'application au niveau du client final, payer en un clic, toutes les innovations d'Amazon sont aussi plaquées là-bas.
François Lévesque, pendant longtemps, on a souligné le fait que Amazon perdait de l'argent. Et c'est vrai que pendant longtemps, Amazon a perdu de l'argent. On considérait même, en tout cas c'était l'avis de certains observateurs, qu'en réalité, ce modèle qui était en train de se construire était intrinsèquement incapable de devenir rentable. De gens se moquaient même, d'une certaine manière, de Jeff Bezos, pariant sur sa faillite future. Et puis, force est de constater que, même si c'est pas le secteur qui est le plus rentable pour Amazon, on parlera tout à l'heure du cloud, il n'empêche que le secteur du commerce en ligne, il est rentable. Alors, qu'est-ce qui a permis, selon vous, à Jeff Bezos, d'abord, à partir de quand est-ce que, justement, on a eu la bascule, et qu'est-ce qui a permis, précisément, de faire de ce modèle un modèle rentable?
En fait, la rentabilité de la partie commerce en ligne pose encore question dans la mesure où vous avez donc cette entreprise qui investit des sommes colossales, y compris en recherche et développement. Et par ailleurs, le grand modèle d'Amazon en commerce en ligne, c'est les abonnés. Les abonnés de Prime, et donc qui payent chaque année une somme différente entre les États-Unis ou les pays en Europe, et qui a droit à être livré plus vite et qui ne paye pas les coûts de livraison.
Pense-t-il, on y reviendra.
Par rapport à d'autres, non, il le paye pas. C'est-à-dire que
non, mais visiblement... le coût de la livraison, il est quelque part, il existe quelque part.
Oui.
Dans le prix du produit, mais on y reviendra.
Non, mais ça, vous n'allez pas dire à un économiste que il y a des choses gratuites. les coûts sont toujours imputés quelque part. Mais ce que je veux dire par là, c'est la livraison de ses abonnés, les abonnés ne payent pas. Si vous prenez tout ce qu'ils achètent à Amazon pendant un an et vous comparez avec les coûts, ces abonnés ne sont pas des abonnés rentables. Alors, d'où vient l'argent? Alors, d'abord, effectivement, de l'activité profitable dans le nuage informatique. Donc là, il y a une espèce de subvention croisée au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que la partie commerce en ligne, elle reçoit l'argent où elle existe parce que évidemment il y a des actionnaires qui parient sur les revenus futurs, mais aussi parce que il y a des profits du côté du cloud. Et donc, mais d'une certaine façon, peu importe pour Jeff Bezos parce que il veut pas s'arrêter là sur le commerce en ligne. Il ne veut pas être le plus grand commerçant en ligne. Ce qu'il veut, c'est être le plus grand commerçant tout seul. Et donc, la compétitivité. À partir du moment où vous livrez des gens chez eux, plutôt que les gens prennent leur voiture pour aller faire le tri eux-mêmes de ce qu'ils veulent dans les supermarchés, la compétitivité coût, elle n'est pas bonne. Et donc, pour espérer qu'un jour, Amazon ait des coûts pour servir ses clients qui soient plus faibles que le coût du commerce physique, il va se passer du temps. Mais c'est ça le but de Jeff Bezos.
Benoît Berthelot, est-ce que le commerce en ligne est rentable pour Amazon? J'ai eu beaucoup de mal quand j'ai préparé cette émission pour trouver le chiffre des bénéfices liés à l'activité du e-commerce. Je mets de côté le cloud, etc. Juste celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé un chiffre 11,6 milliards de bénéfices pour 2019. Je ne sais même pas s'il est possible, si c'est celui-ci ou pas. Mais est-ce que cette activité aujourd'hui est rentable?
Et pour cause, c'est très compliqué de le savoir, parce que Amazon, par exemple, simplement en France, c'est une dizaine de sociétés différentes. Mmh. Une de ces 10 sociétés gère le commerce en ligne à proprement parler d'Amazon, c'est-à-dire Amazon qui achète un stock de 1000 télévisions et qui les revend au détail sur son site. Cette activité-là, évidemment, elle est à très faible marge. Très faible marge. Elle est déclarée en France, puisque vous savez qu'en France, on taxe les bénéfices, ça ne fait pas de bénéfices, donc il n'y a pas d'impôt en France, voilà, tout va bien. Mais c'est l'organisation actuelle d'Amazon. En revanche, 6 produits sur 10 qui sont achetés aujourd'hui sur Amazon sont en fait vendus par des vendeurs tiers, d'autres entreprises indépendantes qui choisissent la plateforme Amazon pour vendre leurs produits. Sur ces produits-là, Amazon prend de toute façon sa commission, 15% de commission sur tous les produits vendus. Donc ça c'est du bénéfice net pour Amazon. Ces commissions-là, évidemment, elles sont centralisées au Luxembourg. Et ça, c'est très rentable. Ces entreprises, elles doivent surnager dans ce qu'on appelle la place de marché d'Amazon, donc tous ces vendeurs qui se font concurrence. Et donc, pour surnager, pour être le numéro 1, quand vous tapez télévision dans le moteur de recherche Amazon, elles payent des publicités pour être en haut du moteur de recherche d'Amazon. Elles payent ensuite pour stocker leurs produits dans les entrepôts Amazon. Elles peuvent payer pour qu'Amazon livre ses produits directement, ce qui est plus rapide. Et donc, c'est tous ces services-là vendus aux entreprises tierces
qui rapportent Amazon, à Amazon.
Qu'Amazon fait son bénéfice.
Pour donner une image, on s'attend évidemment à ce que si vous avez un client, par exemple un client abonné, eh bien que l'ensemble des clients abonnés, ils apportent des recettes et que ces recettes couvrent les coûts pour servir l'ensemble des clients abonnés. Mais en fait, Amazon a plein d'autres sources de recettes et développe à toute allure ses autres sources de recettes. Donc j'ai mentionné son activité dans le cloud, mais dans le commerce électronique, eh bien sur son site, il y a de la publicité. Et Amazon devient maintenant, derrière Google et Facebook,
le numéro 3,
le numéro 3 dans les recettes publicitaires. Et comme l'a signalé à l'instant, qu'est-ce qui se passe sur les services? Eh bien, vous avez des marchands chinois qui payent une commission à Amazon pour le stockage, pour être sur le site, pour être référencé sur le site de façon plus visible que d'autres. Et donc, c'est ce que les économistes appellent des marchés multifaces, c'est-à-dire il y a plusieurs sources de recettes et il peut y avoir une vente, un service qui est gratuit. Et donc tout le monde se dit, mais comment c'est possible qu'il soit gratuit, puisque ça va coûter quelque chose, donc ça coûte quelque chose pour servir les clients Prime, mais il y a d'autres sources de recettes et donc les coûts sont payés par d'autres.
Vous disiez, Benoît Berthelot, les fournisseurs choisissent Amazon. On pourrait reprendre le terme et peut-être l'interroger jusqu'où est-ce que précisément ils choisissent? Est-ce qu'ils ont véritablement le choix de proposer leurs produits ou non à Amazon? C'est vrai, chez Amazon, la grande force d'Amazon, c'est d'être en situation quasiment de monopole et donc d'imposer ses règles, ses lois. Vous mentionnez dans votre livre une stratégie justement qui vise à pousser comme cela dans leur retranchement les fournisseurs, qui s'appelle la stratégie des léopards et de la gazelle, c'est ça, je me trompe pas?
Non,
c'est pas sous votre plume que j'ai lu cette expression là.
C'est exactement ça.
Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on en parle au sein d'Amazon, le système qui vise à acculer d'une certaine manière les fournisseurs.
C'est-à-dire que pour n'importe quelle entreprise qui vend ses produits dans le commerce traditionnel ou via son propre site, c'est absolument grisant de se dire je peux mettre ce produit en vente sur Amazon. Le site d'Amazon en France est visité par 25 millions de personnes par an. C'est une vitrine absolument, absolument exceptionnelle pour ces vendeurs. Ils commencent par mettre leurs produits en vente et au début, ça marche toujours très bien. Ils sont étonnés de voir les commandes qui tombent à toute heure du jour et de la nuit. Donc au début, ils commençaient à peut-être envoyer les colis eux-mêmes et puis finalement, ils confient leurs produits à Amazon. Et c'est à partir de là que tous les coûts s'accumulent. Et l'algorithme, en fait, ils sont à la merci d'un changement d'algorithme qui va faire que si leur produit marche bien, il sera copié soit par Amazon lui-même, qui crée des produits sous sa propre marque. C'est pas une marque Amazon, mais vous ne le savez pas, mais le produit que vous pouvez acheter est en fait directement produit par Amazon, soit c'est un Chinois, effectivement, ou un autre commerçant qui va voir que ce produit marche très bien et qui va produire moins cher. On sort un dossier dans Capital cette semaine qui montre que 55% des vendeurs indépendants les plus populaires de la place de marché d'Amazon sont chinois, c'est des entreprises basées en Chine. Et c'est pas étonnant, elles ont une porte d'entrée directe au marché français via cette place de marché. Pour beaucoup d'entre elles, elles ne payent pas la TVA, donc leurs produits sont 20% moins chers. Jusqu'ici, Amazon s'en lave les mains et dit qu'effectivement, les entreprises utilisent sa plateforme, mais c'est à elles de respecter la loi. Bon, la loi va changer l'an prochain et Amazon sera responsable de la collecte de la TVA, mais c'est un avantage aussi comparatif qu'Amazon a eu depuis des années sur tous les autres commerçants en affichant des produits sans TVA ajoutée.
François Lévesque, la question de la livraison que vous évoquiez hier, parce qu'effectivement, pour les abonnés d'Amazon, la livraison est gratuite, on met des guillemets, on va pas regarder où se situe finalement
qui paye.
Qui paye, mais en tout cas, il y a bien un moment où il y a des gens qui payent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce e-commerce porté par Amazon a eu un effet considérable sur les dispositifs de livraison, sur les systèmes postaux, quels que soient les pays, aux États-Unis, en France aussi, on l'a vu. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre justement jusqu'où est-ce que ça a engendré des transformations pour les systèmes de livraison déjà existants? Parce qu'on a l'impression qu'en réalité, Amazon est parvenu à façonner totalement ce monde du transport pour qu'il lui soit profitable.
Parce que l'obsession, c'est gain de productivité, minimisation des coûts. L'obsession d'Amazon, de Bezos, en général. C'est de l'optimisation tous azimuts, y compris sur les impôts et les taxes. Et cette obsession, il l'a dans la logistique depuis des années. Depuis des années, il s'est aperçu qu'il y avait des gains de productivité absolument phénoménaux à réaliser en logistique. Je vous donne un seul exemple. Si vous voulez faire transporter un colis par avion de Chine, de Shanghai ou de Pékin à Seattle, eh bien, un colis de 70 kilos, son transport par avion va coûter 4 fois plus cher qu'une place d'un passager de 70 kilos. Et ce colis va mettre 2 fois à 3 fois plus de temps que le passager. Bon. Donc le cargo, le transport cargo par avion, il y a des gains de productivité à réaliser. Donc aujourd'hui, Amazon a une flotte d'une quarantaine d'avions. Et donc, même chose pour le fret maritime. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'intermédiaires pour faire du fret maritime et puis des papiers administratifs qui doivent être remplis. Eh bien, là encore, comment? Mais c'est très cher! C'est trop cher! Donc, on va minimiser les coûts. Et Amazon c'est un logisticien incroyable avec cette obsession, minimiser les coûts et comment utiliser des robots, comment utiliser le numérique, comment utiliser comment utiliser la sous-traitance, parce que le transport sur le dernier kilomètre, souvent il est fait par UPS, par des transporteurs, il est sous-traité. Donc il y a le succès sur la logistique, il est là. Il y a des gains de productivité et vous dites mais ça va pas ce truc. Hein. Pourquoi c'est plus cher de transporter 70 kilos de marchandises par avion qu'un passager?
Et alors, justement, Benoît Berthelot, où est-ce que ça fonctionne et où est-ce que ça ne fonctionne plus? Je veux dire, où est-ce qu'on peut trouver encore des marges de rentabilité sur le transport? François Lévesque nous dit, Amazon a investi maintenant, on a des avions qui permettent effectivement de transporter des marchandises à moindre coût, mais sur le dernier kilomètre, c'est tout à fait l'inverse. Effectivement, on n'a plus de livreurs Amazon à proprement parler, ou très peu en réalité. Ce sont, pour ce qui est de la France, ce sont tout simplement des postiers qui viennent livrer.
C'est la Poste le premier distributeur d'Amazon. Absolument. En France encore aujourd'hui. Cependant, on va de plus en plus vers un modèle, en effet, où Amazon internalise sa logistique et préfère la réguler selon ses propres systèmes informatiques et aller de plus en plus vite, aller sur le 24 heures. Y compris sur le dernier kilomètre. Et en France, vous avez ces derniers mois, ces dernières années, des agences de tri des colis qui sont en train d'ouvrir. La dernière vient d'ouvrir à Saint-Étienne-du-Rouvray, à côté de Rouen, il n'y a pas un mois de ça. Il y en a maintenant une dizaine partout en France. Et c'est des agences qui tournent 24 heures sur 24, et surtout la nuit d'ailleurs, qui sont chargées de réceptionner les colis qui arrivent des très grands entrepôts Amazon, qui les organisent par quartier, par ville, par village à livrer. Et des livreurs arrivent le matin avec leurs camionnettes et font leur tournée le plus tôt possible.
Des livreurs professionnels, ou ça pourrait être autre chose?
Non,
par exemple, qu'il y avait des tentatives d'aller justement proposer aux clients d'Amazon d'être livreur d'autres colis, d'autres clients. Ouais.
Voilà, c'est le système Amazon Flex qui existe. C'était dépeint d'ailleurs dans le film de Ken Loach, tout récent, qui se passait au Royaume-Uni. Mais ce système n'est pas encore arrivé en France. Mmh. Il est en Espagne ou en Allemagne, où effectivement n'importe qui, un peu comme le chauffeur Uber, s'il a une voiture, peut s'inscrire sur l'application Amazon Flex et 2 heures, 3 heures par jour livrer des colis. Ça encore, c'est un système du travailleur indépendant dans lequel Amazon a tout à gagner.
François Lévesque, depuis qu'Amazon a implanté son premier site, il y a des interrogations autour des effets d'Amazon sur le tissu économique. On va mettre de côté la question de la qualité des emplois. Elle est évidemment très très importante. Il se trouve qu'on a eu plusieurs fois ici l'occasion de s'interroger évidemment sur cette question-là. Laissons-la de côté un instant en tout cas et regardons si d'un point de vue quantitatif, Amazon est plutôt créateur d'emplois ou plutôt destructeur d'emplois. Parce que d'un côté, il y a évidemment ceux qui disent que cette entreprise a détruit des millions d'emplois, a poussé à la faillite des milliers, des dizaines de milliers, voire plus de petits commerces, ce qui est probablement vrai. Mais de l'autre côté, on a aussi des territoires qui sont très contents d'accueillir justement ces entrepôts parce que ils produisent des emplois. Au bilan, est-ce que on a une idée des emplois créés par Amazon ? Aux États-Unis, c'est le deuxième employeur après Walmart. Si on fait un bilan, est-ce qu'il est plutôt créateur d'emplois ou pas ?
Alors, il y a 2 ans, une étude a été réalisée et qui concluait que Amazon avait créé plus d'emplois qu'il n'en avait détruit. Il faut bien comprendre qu'il n'y a que la destruction d'emplois. Celle-là, elle est facile à voir, ou elle est très intuitive. Des librairies, peut-être, qui font moins de chiffre d'affaires et qui ferment, des petits commerçants de ville qui ferment, etc. Donc, destruction d'emplois d'un côté, à cause de ces gains de productivité, hein, de cette compétitivité plus grande d'Amazon par rapport à des concurrents. Création d'emplois qui sont visibles aussi, c'est des gens qui sont dans les centres de stockage, hein, des chauffeurs pour livrer, etc. Mais il y a un troisième élément qui est absolument fondamental, qui n'est pas très visible, hein, c'est que Amazon et le commerce électronique substituent du travail domestique par du travail salarié. C'est-à-dire que cette activité qui consiste à aller chercher son produit du consommateur, cette activité du consommateur qui consiste à trier dans les rayons et à mettre dans son chariot, puis à passer le chariot dans le coffre de sa voiture, cette activité, c'était du travail domestique. Et maintenant, c'est du travail salarié. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans les centres de stockage, eh bien, c'est eux qui font le tri. Alors, c'était vrai, il y a deux... Donc là, c'est massif, si vous voulez. Donc là, c'est une création d'emplois parce que il y a une substitution du travail domestique par du travail salarié. Donc, c'est des nouveaux emplois. En revanche, je disais il y a 2 ans, peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de destruction d'emplois que de création parce que, eh bien, les centres de tri, par exemple, se robotisent. Donc, vous avez là une poursuite de gains de productivité et grande intensité en travail dans les activités logistiques et notamment dans les centres de tri. C'est spectaculaire de voir la robotique. Et dans quelques années, alors est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais il n'y aura quasiment que des robots dans les entrepôts d'Amazon.
Benoît Berthelot, sur cette question de la création d'emplois, je disais aux États-Unis, c'est le deuxième employeur, 590 000 emplois directs officiellement. On est derrière donc Walmart. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre ? Parce que s'il y a demain que des robots dans les entrepôts, a priori, on se dit que ça va plutôt décroître.
Sur le marché américain, on peut penser effectivement qu'il arrive à maturité. La moitié des foyers sont abonnés Prime. On va dire que la marge de manœuvre, elle est du côté de l'alimentaire. Hein. Les achats de magasins Whole Foods par Amazon préfigurent une articulation encore plus complète de la livraison de produits frais. Entre ces magasins physiques et le commerce en ligne, ça c'est la plus grosse poche de consommation que Amazon n'a pas encore réussi à conquérir.
Pas encore parce qu'il prévoit de le faire ?
Parce que, bien sûr, c'est l'ambition d'Amazon, d'être le commerçant total, comme vous le disiez. Donc, évidemment, ils ont un plan...
Y compris le commerçant du coin, y compris la petite supérette. Parce qu'il y a quelques années, Jeff Bezos disait précisément que les supermarchés allaient mourir. C'était la fin de l'histoire.
Oui, les supérettes, c'est pas forcément le format qui intéresse Amazon, mais effectivement, plutôt des grands magasins. Ils viennent d'ouvrir un supermarché à Los Angeles qui est plutôt une assez grande surface, qui est le premier vraiment supermarché Amazon. Et ils pensent créer un modèle où les gens commanderaient en ligne, par exemple, la lessive, le papier toilette, et viendraient au magasin, ils achèteraient leurs tomates, la viande, les produits qu'ils veulent choisir de leurs propres yeux, voilà, qu'ils veulent choisir eux-mêmes, et ils collecteraient à la sortie les produits secs et l'épicerie. Enfin voilà, c'est des sortes de magasins hybrides comme ça que crée Amazon. Mais la livraison de produits frais, bien sûr, c'est un domaine dans lequel ils veulent aller. Quant au thème de la création d'emplois, le chiffre des emplois créés par Amazon aux États-Unis est intéressant. Il y a une étude qui est sortie cet été par Euler Hermès et Allianz qui parle de 670 000 emplois, destruction nette d'emplois par le e-commerce entre 2008 et 2020. Donc là, ce serait plutôt 4,5 emplois détruits pour un créé. Y a de nombreuses études sur le sujet, mais effectivement, la robotisation est un autre thème qui va changer la discussion autour de ce débat-là.
C'est important, François Lévesque, pour Jeff Bezos de prouver qu'il est à la tête d'une entreprise qui crée des emplois, où finalement, c'est pas du tout son sujet, lui.
Je pense que c'est absolument pas son sujet. Son sujet, c'est de faire en sorte que Amazon soit le vendeur total, pour reprendre l'expression de Benoît, tout produit, tout pays, modulo, on y reviendra peut-être, la Chine. Le monde est en train de changer. Il y a ce découplage entre l'économie américaine et l'économie chinoise. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, Jeff Bezos va répondre. Donc, son obsession, c'est optimiser, voilà, réduire les coûts, trouver des gains de productivité. Et bien évidemment, il n'est pas insensible aux pressions. C'est-à-dire que si à Seattle, la mairie finit par dire oui, mais le prix du mètre carré a trop augmenté, et à ce moment-là, il y a trop de pauvres à Seattle, eh bien, Jeff Bezos, au début, dit j'en ai rien à faire. Et puis, au bout d'un moment, quand même, il va créer une fondation, il va donner de l'argent.
On en parlait tout à l'heure.
Voilà. Ouais. Donc, il va réagir. Il va réagir, bien évidemment, aux pressions venant de consommateurs, venant de médias, venant du politique.
Mais ce n'est pas une conviction profonde.
Mais ce n'est sûrement pas une conviction.
Et d'ailleurs, Benoît Berthelot, il y a quelque chose que j'ai lu, alors là, pour le coup, dans votre livre, j'en suis certain, vous racontez votre rencontre avec la première DRH d'Amazon ici en France, et elle vous raconte l'échange avec Jeff Bezos au moment où, justement, ils mettent un peu en place Amazon en France, et elle lui demande un peu naïvement qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas en France, et lui, dans un grand éclat de rire, que visiblement ses collaborateurs connaissent bien et dont ils savent parfaitement qu'il faut se méfier, oui. Vous serez tous virés.
Voilà, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puisque les débuts d'Amazon en France, ça a été très chaotique, et effectivement, la bulle Internet a rattrapé à un moment l'entreprise, elle l'a menacée, finalement, elle y a survécu, mais les 115 emplois du siège français ont été délocalisés à Londres pendant quelques temps. Effectivement, tous ces gens que j'ai rencontrés, les pionniers d'Amazon en France, ils ont été virés à ce moment-là. Mais effectivement, l'emploi, c'est pas sa préoccupation numéro un. En fait, Amazon a même intégré, dès aujourd'hui, la baisse du nombre de salariés. Ils ont tout un programme pour reconvertir 100 000 de leurs salariés d'ici à 2025 en leur proposant des formations d'infirmiers, d'éducateurs, de profs, de complètement d'autres emplois. Et Bezos dit souvent, mais par exemple, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas un professeur par enfant. Voilà, il y a des réservoirs d'emplois incroyables de ce côté-là. Et pourquoi est-ce qu'on fait la queue quand on va chez le médecin? Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de médecins. Donc voilà, son idée, c'est que l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup d'emplois, l'automatisation également, et qu'il y aura d'autres emplois dans le secteur tertiaire, à plus haute valeur ajoutée, qui vont remplacer ces postes-là.
Benoît Berthelot, dans votre ouvrage Le Monde selon Amazon, vous revenez sur les origines justement de cette entreprise, 94, au départ on ne vend que des livres, puis un peu des DVD, etc. etc. Vous nous racontez ces débuts, parce qu'il y a tout un mythe qui s'est construit, et c'est comme toujours dans les mythes, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui le sont moins. On faisait les paquets dans un petit garage, comme d'autres milliardaires qu'on connaît bien du numérique. Tout ça est vrai, tout ça est assez largement...
Alors, tout ça est effectivement une légende et un storytelling qui a été... peaufiné par Jeff Bezos lui-même et rabâché dans toutes les interviews qu'il a pu donner depuis 25 ans. Et j'ai lu une bonne partie d'entre elles. Mais effectivement, la légende de l'auto-entrepreneur, de l'autodidacte qui est parti de rien, le self-made man, elle a ses limites, puisque effectivement Jeff Bezos a quitté un fonds un hedge fund de New York dont il était vice-président au moment où il a créé Amazon. Donc il avait déjà des très hauts revenus, il était diplômé de Princeton, ses parents lui ont prêté 250 000 euros pour créer sa start-up.
Sa mère et son beau-père, parce que visiblement voilà. Son père est parti.
Oui, il est adopté par un immigré cubain, qui est lui pour le coup vraiment un self-made man, un immigré qui est arrivé à 16 ans aux États-Unis, qui était ingénieur. C'est des parents qui lui ont donné une très bonne éducation, effectivement, il a fait Princeton. Il était surdoué et effectivement, quand il était dans ce hedge fund, il a vu que le commerce en ligne allait de toute façon advenir, vu les taux de croissance d'Internet à ce moment-là, en 94, c'était encore balbutiant. Et il a lancé sa start-up à Seattle, effectivement dans un garage. Il a cherché une maison avec garage pour pouvoir dire qu'il avait lancé son entreprise dans un garage. Il a fait des paquets lui-même, c'est certain, au tout début. Ce qui est vrai, c'est que ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire, la croissance a été très forte dès le début. Le premier mois d'existence d'Amazon, il y avait déjà des livraisons dans les 50 États américains. Il a eu de forts échos dans la presse, un portrait dans le Wall Street Journal qui a donné une renommée à son entreprise auprès des investisseurs et du grand public. Et donc, c'est allé très vite, effectivement, et s'est vite rendu compte que les gens étaient prêts à commander beaucoup plus que des livres sur son site.
Alors ça, c'est pour l'histoire, mais maintenant, Jeff Bezos va aller beaucoup plus loin. Il a des ambitions quasiment sans frontières.
Je suis tombé amoureux de l'espace et des fusées depuis l'âge de 5 ans. Depuis que j'ai vu Neil Armstrong poser un pied sur la Lune. Ma vision pour Blue Origin, c'est de voir des millions de gens vivre et travailler dans l'espace.
François Lévesque, désormais la nouvelle lubie de Jeff Bezos, c'est l'espace. Il a déjà annoncé qu'il comptait envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2024. Jusqu'où faut-il croire cet homme? Alors, on parlait de la légende tout à l'heure. Il le dit, il le répète souvent. Il adore la science-fiction. Il ne ratait pas un épisode de Star Trek, etc., etc. Mais enfin bon, est-ce que ça suffit pour effectivement mener à bien cette ambition spatiale portée par Jeff Bezos?
En tout cas, on peut croire qu'il y croit. Il croit en sa propre vision et de ce point de vue-là, il rejoint d'autres tycoons ou d'autres magnats comme Elon Musk qui s'intéresse aussi à l'espace, on le sait. Mais je relierais ça plutôt à une sorte de désir d'immortalité. C'est-à-dire, on a maintenant des très grands, enfin les entreprises du numérique et leurs fondateurs visent une sorte d'immortalité. Alors bien sûr, ils ne visent pas comme les titans grecs de la mythologie d'être immortels indéfiniment, mais ils visent aussi pour leur propre santé, c'est-à-dire je pense que Amazon, comme d'autres grands magnats, eh bien, il investit beaucoup dans la santé parce que pour sa propre, il parie aussi sur une survie qui soit la propre, ça, qui aille au-delà de 100 ans pour lui-même. Donc c'est l'immortalité de leur entreprise, c'est leur propre immortalité. Et donc partir comme ça dans l'espace, conquérir, c'est à la fois évidemment le désir de conquête de nouveaux espaces, qui est très américain, mais c'est aussi, d'une certaine façon, prendre date ou mettre un pied dans un début d'immortalité.
Alors, il y a aussi d'autres domaines dans lesquels justement il investit, et là peut-être pas pour l'immortalité, mais pour des choses bien terre-à-terre. Je pense en particulier aux médias. Il a racheté en 2013 le Washington Post. À ce moment-là, on s'est dit, tiens, pourquoi fait-il ça? Est-ce que vraiment c'est pour soutenir les médias qui vont pas très bien? Ou est-ce que derrière, il y aurait peut-être un projet politique? Benoît Berthelot, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il a des ambitions politiques, Jeff Bezos? D'autres milliardaires, en leur temps, en ont eu avec un certain succès.
Il refuse généralement de parler de politique politicienne, il se situe pas. Il a aussi dit qu'il n'avait pas du tout pour projet d'être président des États-Unis. Je pense que pour lui, il se rêve en maître de l'univers plutôt que c'est qu'en président des États-Unis. Il est traité avec les égards d'un chef d'État aujourd'hui, quand il est reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, comme en février dernier. Je pense qu'il se voit comme effectivement plus puissant que le président des États-Unis, mais réellement. Et d'ailleurs, tous ces juristes cherchent toujours à influencer les lois sur la reconnaissance faciale. Quand il parle d'environnement, il crée un engagement qui est semblable aux accords de Paris et il demande à toutes les autres entreprises d'y adhérer. Enfin voilà, il a beaucoup de comportements comme ça qui sont ceux d'un chef d'État, d'un super État mondial qui est sa planète Amazon. Et pour ce qui est du Washington Post, c'est plus un investissement qu'il a fait pour se positionner à Washington, comme peuvent le faire des milliardaires français quand ils achètent un titre de presse d'ailleurs. Hein. Ça, lui, il a acheté la plus belle maison de Washington, il donne des grandes fêtes, il est voisin des Obama là-bas. Enfin, vous voyez, ça l'a mis vraiment sur la carte du pouvoir politique.
Mais il est situable politiquement ou pas ?
Oui, c'est un libéral, ultra-libéral, libertaire.
On est libéral et quand on est démocrate et républicain, ça ne se situe pas ça.
C'est un libertarien, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à la fois il a financé les campagnes pour le mariage gay. Il va être libéral sur les thèmes de mœurs et évidemment en politique également partisan d'un minimum d'intervention de l'État, d'un minimum de taxation. Il a ce paradoxe qui est qu'il est tout à fait d'accord pour travailler avec l'État américain quand il s'agit d'envoyer des satellites de l'armée américaine, quand il s'agit de participer au programme spatial américain, de collaborer avec la police quand il lui vend sa technologie de surveillance. Donc en ça, il est différent des fondateurs de Google ou même de Facebook qui savent qu'ils ne peuvent pas s'engager très loin sur ces thèmes sécuritaires, par exemple.
François Lévesque, réponse courte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à se disperser ? Le commerce en ligne, le spatial, le cloud, on l'a dit tout à l'heure, on n'en a pas suffisamment parlé, les médias. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça risque d'être trop ?
Pas sûr, parce qu'il sait s'entourer. Bien évidemment, on a une organisation très centralisée, mais il a des gens de talent absolument incroyable autour de lui. Le patron de la partie cloud, qui est d'ailleurs le deuxième ou le troisième actionnaire d'Amazon, donc il est aussi récompensé. C'est un type absolument formidable du point comme geek quoi, comme techno. Et donc ça c'est quand même une façon aussi de pouvoir se diversifier à partir du moment où vous avez des gens de confiance qui sont des talents absolument immenses, vous pouvez faire plein de choses différentes.
On peut faire plein de choses différentes et on peut même faire un peu de philanthropie quand même. Le 19 octobre prochain, l'école Montessori financée par Jeff Bezos devrait ouvrir ses portes à Des Moines dans l'état de Washington.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Good afternoon, Mr. Jeff.
L'expérimentation Montessori a l'air de produire de très bons résultats. La question évidente, lorsque l'on voit de si bons résultats, c'est de trouver comment on le rend accessible à plus de gens.
This is the map of Europe. And you could take all of these out and then...
Oh, figure out where they go back.
Yeah, you have to figure out where they go.
Voilà donc Jeff Bezos qui a annoncé récemment sur son compte Instagram l'ouverture d'une première école maternelle financée par son fonds. Bonjour Anne Monnier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences sociales à la chaire philanthropie de l'ESSEC et vous avez écrit « Nos chers amis américains, une enquête sur la philanthropie transnationale » qui était parue au PUF. Alors il y a cette école maternelle qui va bientôt ouvrir, d'autres devraient suivre, même si on ne connaît pas exactement ni les lieux ni les dates d'ouverture exactes, mais c'est la première pierre au fond de la Bezos Academy, un réseau d'écoles maternelles pour un homme dont on dit qu'il s'est pas forcément illustré pour une grande générosité. Pour être très clair, on dit carrément que c'est un radin et que c'est pas du tout dans la tradition philanthropique américaine. Alors comment vous recevez, Anne Monnier, cette annonce d'ouverture d'une école maternelle Montessori ?
Alors c'est vrai que c'est un événement qui est très médiatisé et je pense que c'est un geste central, sachant qu'effectivement sa philanthropie a été très peu importante jusqu'à 2018. Mais je pense qu'aussi ça pose question, sachant qu'il va donner à des écoles Montessori, alors qu'il y a des écoles publiques qui sont exsangues face à la crise du Covid, et sachant qu'il a été lui-même dans une école Montessori. Donc ça pose aussi question sur le type d'école qu'il va financer et aussi sur, on va dire, la politique éducative qu'il va mener dans ces écoles.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Anne Monnier ? C'est que finalement, la question de l'urgence sociale n'est pas son sujet une fois encore, mais qu'il investit dans quelque chose qui finalement est assez proche de lui, en tout cas proche de son parcours.
Voilà, exactement. Ouais. Et c'est très typique, en fait, des grands philanthropes américains, c'est qu'on rend généralement à sa communauté, à son université, à son école, à sa ville. Et donc, il y a aussi une question de redistribution qui est souvent beaucoup moins bien faite par la philanthropie que par, évidemment, la redistribution de l'État.
Il semble, Anne Monnier, que, contrairement à beaucoup de milliardaires américains, Jeff Bezos n'a pas véritablement de vision philanthropique. En tout cas, on se souvient que il y a quelques années, c'était en 2017, je crois, il avait d'abord, dans un premier temps, refusé l'appel de Bill Gates et Warren Buffett. Ça, c'était quelques années avant, c'était en 2010. Et puis surtout, quelques années plus tard, il avait dit qu'effectivement, il allait se lancer dans la philanthropie, mais en publiant un message sur Twitter et en appelant, au fond, ses followers à réfléchir à ce qui pourrait être une bonne action. Il avait dit, je vais traduire le message, je réfléchis à une stratégie philanthropique qui soit à l'opposé de ce que je fais habituellement, à savoir investir sur le long terme. En matière de philanthropie, je découvre que je me trouve de l'autre côté du spectre, le maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas précisément cette fois des conseillers à la hauteur pour justement lui dicter une bonne stratégie philanthropique. C'est pour se montrer proche du peuple, voire carrément un peu populiste. Enfin, comment on comprend les choses?
Oui, c'est très intéressant en fait comme moment, et je pense que ça montre bien que Jeff Bezos est un philanthrope à contre-courant, puisque après plusieurs années avec une philanthropie assez peu importante, il faut savoir qu'en 2018, il avait à peine donné 100 millions, et en 2017, tout à coup, il écrit un tweet en demandant des idées pour faire de la philanthropie, sachant que c'était un moment où déjà Amazon était très critiqué, il venait de racheter Whole Foods, donc il y avait un problème de monopole, et il le fait de manière complètement étonnante et étrange, qui est de demander sur les réseaux sociaux des avis, alors que la plupart des grands philanthropes s'entourent de professionnels, d'experts. Donc c'était vraiment une méthode à la fois spontanée. Certains ont vu une stratégie en fait un peu populiste de dire « moi je m'adresse directement au peuple plutôt que d'experts ». Mais on peut voir aussi là juste un manque de stratégie. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette manière de faire de la philanthropie s'oppose complètement à la manière de faire chez Amazon, c'est-à-dire que chez Amazon, il est extrêmement ambitieux, il va à l'international, il a des projets à long terme, alors que sa philanthropie, c'est plutôt du local, du court terme, avec une stratégie assez peu présente.
Alors évidemment, quand on compare les choses avec Bill Gates et sa fondation, on se dit qu'il n'est pas du tout à la hauteur, mais il faut aussi rappeler l'histoire et dire que à son époque aussi, Bill Gates était précisément critiqué pour son manque d'engagement sur son action philanthropique, hein, ça qui n'a en réalité que commencé que assez tard, à la fin des années 90. Donc il faut pas non plus dire que tout est mauvais. Si ça se trouve, l'action philanthropique de Jeff Bezos sera très bonne dans les années qui viennent. Mais alors, il y a un sujet sur lequel visiblement il s'investit beaucoup ces derniers temps, Anne Monnier, c'est le climat. En février dernier, il a mis en place un nouveau fonds pour le climat, le Bezos Earth Fund, qui est doté quand même de 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est ça, finalement, l'action philanthropique de Jeff Bezos, du nouveau Jeff Bezos généreux, et est-ce qu'il va en faire la pierre angulaire de sa stratégie philanthropique de demain?
Oui, alors après des années où il semblait ne pas avoir de stratégie, il est vrai qu'il a fait donc 10 milliards, il a investi 10 milliards dans le Bezos Earth Fund. La question que ça pose, c'est est-ce que ça va donner vraiment lieu à des dons importants? Il y a déjà des critiques puisqu'il avait dit qu'il commencerait à faire des dons pendant l'été et ça n'a pas été fait, donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que l'ambition en termes de montant est déjà assez importante, mais c'est surtout, il faut quand même le rappeler, à un moment où les employés d'Amazon, notamment le Amazon Employee for Climate Justice, critique beaucoup la politique environnementale du groupe. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est aussi pour rattraper l'image d'Amazon et plutôt pour essayer de réparer les maux que son entreprise a contribué à créer. Donc il y a aussi cette question, en fait, du paradoxe des valeurs d'Amazon et de ces valeurs philanthropiques qui cherchent à sauver le monde et à faire le bien.
Mais à qui compte-t-il donner cet argent à travers ce fonds? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez donner à des gens qui sont directement victimes du dérèglement climatique, comme vous pouvez donner à des chercheurs qui travaillent sur un sujet lié au climat. Enfin, c'est pas du tout la même chose.
Non, pas du tout. Il avait l'air de dire que c'était plutôt pour les ONG, pour les activistes, etc. On va voir concrètement ce que ça va donner. Pour l'instant, il reste très mystérieux. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que sa stratégie reste quand même assez mystérieuse.
Mais est-ce que son engagement semble sincère ? Par exemple, même chose, il a dit récemment qu'il voulait que Amazon atteigne la neutralité carbone d'ici 2040. Alors, on ne voit pas très bien comment il peut le faire, mais enfin, est-ce que c'est une vraie ambition de décarboner son activité ?
J'ai l'impression qu'en fait Amazon, en termes de réputation, est un petit peu dans une impasse. Il y a vraiment énormément de critiques, que ce soit l'optimisation fiscale, la question carbone, mais aussi le management extrêmement dur. Donc je pense que la philanthropie va être pour lui un moyen de redorer l'image d'Amazon. Et je pense qu'il a vraiment intérêt à finalement aller dans le sens de ses promesses, parce que je pense que rien ne serait pire que de promettre des choses qu'il ne ferait pas.
Réaction peut-être ici en plateau avec François Lévesque et Benoît Berthelot. François Lévesque d'abord.
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un anti-philanthrope. Un anti-philanthrope, pourquoi ? Parce que c'est un spécialiste de l'analyse coût-bénéfice, mais l'analyse coût-bénéfice à long terme. Et donc, il y a cette idée qui correspond évidemment à ces convictions libertariennes dont a parlé Benoît, qui sont l'initiative privée est toujours supérieure pour offrir des biens communs, des biens collectifs, que ça soit l'école, que ça soit la santé, parce que l'État, c'est de la bureaucratie. Et donc, cette conviction, il la partage avec tous les libertariens américains, et il se dit, on peut sans doute mieux faire, nous, comme initiative privée. Mais il conjugue ça avec son intérêt de long terme, et il faut penser qu'il est anti-philanthrope, ce qu'il fait pour l'environnement, il le fait pour Amazon et son entreprise et son futur.
Benoît Berthelot.
Oui, je souscris complètement à ça, et à chaque fois qu'il prend des engagements philanthropiques, c'est incroyable de voir à quel point c'est flou. Et c'est encore une fois des effets d'annonce. Il est excellent en marketing, mais il annonce 2 milliards pour faire des écoles Montessori et pour aider les sans-abri. On ne sait pas sur quelle durée ces 2 milliards sont investis. Idem pour son fonds pour l'environnement. 10 milliards, très bien. Sur combien d'années pour aider qui ? Alors, tout le monde peut postuler, des étudiants qui ont des projets pour l'environnement. Enfin, il y a un côté effectivement pas sérieux dans tout ça, en tout cas pour l'instant.
Merci beaucoup Anne Monnier d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Je rappelle que vous êtes auteur notamment de Nos chers Américains, une enquête sur la philanthropie transnationale. Grand merci François Lévesque de nous avoir accompagnés. Je rappellerai vous concernant Les habits neufs de la concurrence qui était paru chez Odile Jacob. Un grand merci également à vous Benoît Berthelot. Le Monde selon Amazon, c'était aux éditions du Cherche Midi. Et puis donc le magazine Capital qui sort justement un numéro spécial sur le e-commerce dont on vient de parler. Demain on changera de milliardaire, on parlera de Soros. Mais pour l'heure, alors il n'est pas milliardaire, mais il a beaucoup d'idées quand même. C'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
En 1974, avec le renversement du dictateur Salazar, s'ouvrait une nouvelle période historique. Est-elle en train de se refermer ?
Eh oui, entre cette révolution des œillets portugaises le 25 avril 1974 et la fin du XXe siècle, on a vu tomber une à une les dictatures, comme les feuilles aux arbres en automne. Un spectacle réjouissant et encourageant, au point d'alimenter à l'époque une certaine euphorie. Quelle que soit leur culture, quelle que soit l'ère de civilisation à laquelle ils appartiennent, disait-on, les gens préfèrent la liberté d'expression parce qu'elle leur permet d'exprimer ce qui ne va pas et donc de corriger les erreurs. Les peuples veulent pouvoir demander des comptes à leurs dirigeants et les révoquer lorsqu'ils les jugent incapables. La démocratie libérale, déconnectée de la religion, ouverte sur le monde, enrichit les nations qui l'ont choisi. Bientôt, le monde entier serait converti à ce système de gouvernement et de production des richesses parce qu'il avait fait ses preuves. Après avoir vaincu le fascisme, sur le terrain même qu'il avait choisi, celui des armes, les démocraties occidentales se sont réjouies d'assister à l'implosion de l'autre grand défi du siècle, celui du communisme. Celui-ci avait promis le développement accéléré et l'égalité au détriment des libertés publiques. Or, s'il avait en effet engendré le despotisme, Cela avait été au prix de la gabegie économique, de la dévastation de l'environnement et en créant des sociétés encore plus inégalitaires dans les faits que le capitalisme libéral lui-même. Avec la sortie du communisme de toute l'Europe centrale en 1989, la messe semblait dite. Pourtant, les deux premières décennies du XXIe siècle, le nôtre, ont apporté un cruel démenti à cet optimisme. Du nord au sud et d'est en ouest, la démocratie recule. Certes, entre le standard ultra-despotique de la Corée du Nord et les modèles de démocratie que sont, disons, la Norvège ou la Nouvelle-Zélande, il existe toute une gamme de régimes. Le politologue américain Larry Diamond, l'un des animateurs de la revue Journal of Democracy, a été l'un des premiers à alerter l'opinion sur ce qu'il a nommé, dans un article publié dans Foreign Affairs en 2008, « The Democratic Rollback », la régression de la démocratie. Diamond a identifié 6 catégories de régimes en les classant du plus libéral au plus autoritaire. Démocratie libérale, démocratie seulement électorale, régime mixte ambigu, régime autoritaire mais pluraliste, régime autoritaire à parti hégémonique, régime autoritaire fermé sur le monde. Or pour lui, la régression est une tendance générale. On recule partout d'une ou plusieurs cases. Alors certes, nous ne sommes plus à l'époque des coups d'État militaires, lorsque des démocraties parlementaires constitutionnelles étaient renversées pour être remplacées du jour au lendemain par des dictatures sanglantes. La régression se fait en douceur, par petites étapes, si discrètes qu'elle passe inaperçue.
Et puis alors Brice, Ece Temelkuran, qui est l'une des plus célèbres journalistes turques, a publié en français un livre essentiel pour comprendre comment un autocrate étrangle très progressivement une démocratie. Son titre, c'est « Comment conduire un pays à sa perte », le sous-titre « Du populisme à la dictature ».
Et oui, parce que la manière dont Erdogan a mis au pas la société turque depuis la création de son mouvement, l'AKP, en 2001, jusqu'au pseudo-coup d'État du 15 avril 2016, peut être considérée comme un modèle du genre, un véritable cas d'école. Nous avons intérêt à l'étudier de près afin de nous prémunir d'un risque de dépérissement démocratique dont nous voyons bien aujourd'hui qu'il menace tous nos pays. C'est ce que suggère en permanence Temelkuran dans ce livre désormais disponible en édition de poche. Elle établit de nombreux parallèles avec la Hongrie de Orban, le Brésil de Bolsonaro, les États-Unis de Trump et le Brexit. Son livre est bien plus intéressant que celui d'une simple politologue. L'auteur est non seulement l'une des éditorialistes les plus justement célèbres de son pays, mais une conférencière et écrivain connue dans le monde entier. Alors, ce livre, « Comment conduire un pays à sa perte », est parsemé de récits, de rencontres, de témoignages personnels, de faits vrais pris sur le vif. Menacé de prison, son auteur a dû s'exiler. Elle vit aujourd'hui à Zagreb, en Croatie. Alors, les étapes qu'elle repère dans la construction par Erdogan de son pouvoir autocratique sont au nombre de 7. Et je compte bien les résumer au cours de mes chroniques de cette semaine, en complétant cette leçon de vigilance démocratique grâce au numéro du magazine Books qui vient de paraître. Il a justement pour dossier central un dossier intitulé « La tentation autocratique ». Ruez-vous sur cette publication, son directeur Olivier Postelvinet annonçant en édito que c'est probablement le dernier numéro de cette revue sans comparaison dans la presse française. Si le tour du monde des idées avait son magazine, c'était bien Books. Sa disparition annoncée est aussi tragique pour la vie intellectuelle de notre pays que celle de la revue Le Débat. Mais commençons donc par le premier précepte contenu dans « Comment conduire un pays à sa perte ?» D'abord créer un mouvement. Pas un parti, non, un mouvement. Ces militants apparaissent comme les membres d'une secte, ils se présentent comme des purificateurs, dotés d'une moralité supérieure, les nettoyeurs des écuries d'Ogias de la politique politicienne, assécher le marais de Washington, comme disait Trump. La suite demain.
Eh bien, rendez-vous demain, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, dans un très court instant. C'est Olivier Gesbert et la Grande Table.